Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Vendredi 14 avril. Oui, 14 avril, ne te découvre pas d'un fil. Mon Dieu, que ça apparaissait pas hier.
Et comme dirait Francine, enlève pas ton côte avant la Pentecôte.
Elle a dit ça?
Oui.
Ah, j'étais-tu là, cette journée-là?
Oui, exactement, mais comme d'habitude, vous étiez à moitié là.
Ah bon? J'étais là physiquement. J'étais en short hier.
Et grand bien vous en fasse.
Oui, oh, oui, ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement. Ça m'a beaucoup tenté ce matin, mais il faisait 12. Mon Dieu, on vient de changer vraiment de saison, hein, parce que depuis janvier, on y avait goûté, nous, le vendredi.
Mais moi, je vous dirais depuis la semaine dernière, parce que vendredi oui, déjà, dernier, oui. Nous n'étions pas ici.
Non.
Mais si nous avions été ici, on aurait parlé de froid, on aurait parlé de pluie l'hiver glaçante, on aurait parlé de
noirceur.
Pluie très froide, de noirceur. Oui. Comme on l'a déjà vécu un certain hiver en 1998.
Pas mal plus longtemps. Moi, je roulais à vélo sur le bord de la mer la semaine dernière à ce moment-ci. Bien habillé quand même. Il faisait beau, mais pas très chaud. Mais quand même, c'est ça. Oui, le printemps était commencé. Alors, on a entendu Francine Forget. Bonjour, Francine.
Bonjour, Yvan.
Vous êtes venu à pied.
Ah, oh, mais comme à l'habitude.
Toute saison, vous.
Ah, oh, toute saison. Mais ce matin, je sais pas dans quelle saison j'étais, en fait. C'est
la
fin du printemps ou encore l'été, je ne sais trop, mais c'était magnifique.
Bravo. Et Mathieu Tessier, qui est venu en scooter, je crois.
C'est exact.
Un homme de peu de mots. Et je pense que tout le système fonctionne bien ce matin. Là.
Oui. Je trouve que mon matin est assez calme jusqu'à maintenant.
Comparativement à hier matin à la même heure. Alors, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a 2 semaines?
Je vais vous parler d'éducation cette semaine. Je vous en parle dans mon fait saillant.
Pouf.
Et je vais revenir là-dessus quand on fera les unes pour une nouvelle qui n'est pas en une de la Presse Plus, mais qui parle quand même de l'enseignement de l'accord des participes passés.
Je sentais que ça s'en venait.
Ça s'en venait. Mais d'abord, je vais revenir sur l'école autrement qui, je vous invite à aller voir, qui est un documentaire qu'on trouve sur le site de Télé-Québec, là, qui a été diffusé, mais là, maintenant, vous pouvez aller sur le site, il est disponible. C'est intéressant, c'est sûr que je dirais que c'est les mêmes vieilles problématiques, les mêmes vieilles façons de voir les choses, mais ça pourrait être une bonne base de départ pour une très belle discussion, je dirais, élargie à l'ensemble. D'ailleurs, là-dedans, on se dit, est-ce qu'on est dû pour une autre commission par an? On pose la question.
C'est pas la première fois hein, qu'on se pose cette
question. On revient là-dessus. Mais moi, ce que j'ai surtout aimé, parce qu'en mode solution, c'est le dossier de Katia Gagnon qui a été diffusé dans la Presse Plus du 9 avril. Les héros de l'ombre, l'usine à miracles. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous invite à aller sur le site déclic.ca. Et qu'est-ce que c'est que cette une usine à miracles? Mm-hmm. C'est un organisme sans but lucratif qui est quand même financé par le ministère de l'Enseignement supérieur,
oui.
Qui est un partenaire, qui ramasse, c'est le cas de le dire, le verbe est choisi à bon escient, tous ceux qui sont perdus dans le trou de l'éducation aux adultes. Ce sont des gens qui ont décroché de l'école, certains qu'on a orientés vers l'aide sociale, et pourtant, il y avait un espoir et un très bel espoir. Il y a là-dedans de très beaux témoignages des gens qui se sont pris en main grâce aux intervenants de déclic.ca. Et ça fait 28 ans que ça existe. Et je dirais, en terminant, qu'on ne parle jamais assez de ces organismes qui font des choses exceptionnelles avec peu de moyens, somme toute.
Et avec des résultats assez impressionnants.
Impressionnants, voilà.
Marie, ma conjointe, a chanté dans la même chorale que Benoît Bernier, qui est un des deux co-fondateurs de cette. Alors, j'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec lui à quelques reprises. C'est un bonhomme vraiment, vraiment très intéressant.
Et vous, Yvan?
De mon côté, ce qui a retenu mon attention, ben, c'est évidemment le beau temps. Les branches un peu partout qui sont des témoins de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et surtout, cette semaine, on lançait la saison vraiment estivale avec le lancement des Bixi. Et puis hier commençait aussi le nettoyage du printemps. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir nos vélos et pas être dans les restants de l'hiver dernier avec toutes les petites roches et tout ça.
Mais attention, Yvan, vous savez que le nettoyage du printemps ne se ferait pas au même rythme, en tout cas pour non, commencer, compte tenu de la tempête de verglas qu'on a eue.
Exact. Et Bixi, souvenons-nous, gardons en tête plutôt que cet hiver, on va pouvoir en faire du Bixi.
Enfin!
Oui, oui, oui. Et avec, c'est vraiment des vélos très robustes, alors je pense que c'est bien adapté à la situation d'hiver. Et l'autre chose que j'ai noté, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos vélos dans le métro, sauf dans les deux plages d'heures des travailleurs.
L'heure de pointe.
L'heure de pointe, merci, du matin et de l'après-midi. Mais à part de ça, on va pouvoir utiliser nos vélos.
Et les chiens
et
aussi.
Et les chiens aussi, c'est ça. Aussi, vous faites du vélo avec votre chien. Vous pouvez tout faire ça.
À l'émission d'aujourd'hui, notre historien en résidence, Marcel Dugas, nous parle de Bikini.
À cause de la température?
Non.
Ah.
Bikini, atoll de l'océan Pacifique. Oh. Qui a donné son nom au Bikini? Oui, alors, il va ça. Tout nous raconter ça.
C'est comme un sandwich, hein?
C'est à peu près.
Oui.
Chronique techno, alors là, je n'entrerai pas dans le détail, mais on est dans l'actualité. Il y a tellement de choses qui se passent et je ne vous parlerai pas de ChatGPT parce que c'est comme déjà de l'histoire ancienne. C'est incroyable ce qui se passe présentement sur le plan technologique.
C'est comme se répéter.
Oui. Et je vais recevoir pour en deuxième partie, Ilric Normando. Non, je sais que vous l'avez trouvée très bonne, mais moi, j'ai continué comme si de rien n'était. Mais j'ai bien noté. J'ai bien noté le jeu de mots. Alors, de votre côté, Yvan?
De mon côté, j'ai enregistré une entrevue cette semaine qu'on va entendre. C'est dans la chronique « Quoi surveiller en fin de semaine avec une association ». Normalement, on aurait parlé avec Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Mais elle est allée se promener quelque part sur cette planète. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre sa place et vous allez la reconnaître. Mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est déjà sur l'enregistrement. Je ne veux pas me répéter. Et pour lancer cette émission, c'est vous qui avez choisi la chanson. La voici.
Comme un pont qui s'écroule au milieu de la foule, comme un cri dans la nuit d'une devise. Tomber tête la première et le cœur à l'envers, tomber de tout mon poids, tes cheveux dans mes doigts, je suis tombée de toi.
Toi.
c'était... Vous avez sûrement reconnu une des deux voix.
En fait, si on est attentif, on peut reconnaître facilement les deux.
Ah oui, vraiment?
Oui.
Ah.
Parce que Isabelle Boulay, OK, ça c'était...
Ah non, c'est très clair.
Mais
ouais.
La deuxième, lancez-vous pas tous en même temps?
Ben, c'est parce que ça sera un peu drôle que je vous dise que je le sais, parce que j'ai choisi la chanson, alors...
Alors, Mathieu,
France d'amour.
Voilà, ah. Voilà, c'était la deuxième voix qu'on entendait.
Les unes. Ce matin, dans Le Devoir, on parle de santé mentale. Mais cette fois, on pense aux gens qui soignent sans être soignés. L'Association des médecins psychiatres du Québec organise un sommet afin d'améliorer le bien-être des soignants. C'est Marie-Ève Cousineau dans Le Devoir qui nous présente cet article-là. La présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Claire Gamache, elle sonne l'alarme en disant que la santé mentale des soignants se dégrade. Et il était temps que le gouvernement québécois s'attaque à ce problème de front. Parce que c'est vraiment important selon ce qu'on voit. Elle disait que, en fait, elle cite des chiffres qui en disent long sur l'épuisement professionnel des intervenants. Selon un sondage qui est mené par l'Association médicale canadienne et rendu public en janvier, 60 % des médecins, résidents et étudiants en médecine au Québec présentent des symptômes importants d'épuisement professionnel. Et ça a été mesuré à l'automne 2021. Ce taux s'élevait à 53 % à l'échelle du pays contre 31 % il y a 4 ans. Alors, on voit qu'il y a un écart important et que de ce côté des soignants aussi et de mental, il y a des répercussions de tout ce qu'on a vécu ces dernières années. En une du Devoir toujours, on aborde évidemment la fameuse question du don du donateur chinois à la Fondation Trudeau. On titre que l'Université de Montréal était l'objectif premier de ce donateur chinois. Il voulait, avant même de considérer la Fondation Trudeau, faire comme il avait fait précédemment en 2013 pour l'Université de Toronto et donner un important don, on parle de 800 000 $ à l'Université de Montréal. C'est Boris Proulx qui nous en parle, correspondant du Devoir à Ottawa. Du côté de la Presse Plus, on est aussi sur cette question du don chinois. En une de la Presse Plus, on cite « La Chine bel et bien derrière le don ». Mais en fait, c'est un peu plus fouillé. Je dirais que dans le Journal de Montréal, on consacre, dans le Devoir, excusez-moi, on consacre quelques écrans. Et pour plutôt illustrer le chemin qu'aurait pris ce fameux don, alors qui origine d'une association qui est supervisée par Pékin et le Parti communiste, et comment ça s'est rendu à partir d'une compagnie montréalaise, d'un organisme montréalais, jusqu'à la Fondation Trudeau et aussi à l'Université de Montréal. La presse a obtenu des documents qui confirment ces informations-là et le reçu fiscal a été fait au nom d'une entreprise, mais qui n'est pas au nom des donateurs. Et c'est toute la difficulté dont on a parlé amplement hier, alors j'y reviendrai pas, sur... comment on peut rembourser un don quand on ne connaît pas vraiment l'origine, le donateur, effectivement. Alors, c'est un petit peu compliqué l'affaire et je pense qu'on va continuer à en entendre parler sûrement au cours des prochains jours. Je vous avais dit aussi que sans que ce soit en une, il y a quand même une nouvelle qui a retenu mon attention dans le secteur éducation, dans la Presse Plus. C'est les profs de français qui veulent dépoussiérer les participes passés. À ceux qui ont encore des sueurs froides quand vient le temps de conjuguer un participe passé, les professeurs de français vous ont entendu. C'est ainsi que Hugo Pilon-Larose commence son écran dans la Presse Plus. Alors, on le sait que le gouvernement Legault, il promet de revoir en profondeur les programmes de français au primaire et au secondaire et il propose ses enseignants d'arriver avec une version simplifiée de l'utilisation des participes passés. En entrevue avec la presse, Alexandra Faran, qui est vice-présidente de l'association et professeure de français elle-même en deuxième secondaire, ne cache pas son exaspération face au temps consacré aux exceptions et ce qu'elle appelle les exceptions, des exceptions liées à l'enseignement des participes passés. Alors, elle dit, on évalue qu'au secondaire, un élève a passé plus de 80 heures à apprendre les participes passés. On passe un temps fou sur les exceptions, alors que les statistiques prouvent qu'elles concernent moins de 8 % des règles d'accord, de dire Mme Farran. Enfin, je ne peux pas passer sous silence, surtout en voyant mon interlocuteur en face de moi, la fin d'un éprouvant marathon. La Presse Plus titre ainsi et elle parle, mon cher Yvan.
Des Canadiens de Montréal.
Alors, j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
La saison qui vient de se terminer.
Eh oui.
Bon, on avait déjà prévu au départ que ça serait une saison difficile. Ça a été une saison difficile. En fait, ça aurait pu être une saison plus intéressante, n'eût été de tous les joueurs qui ont été blessés et mis de côté.
Mais difficile à ce point?
Ah oui, 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 oui.
À ce point-là?
Ah oui, oui, sûrement.
Et que vous êtes un fan convaincu.
Et convaincant, j'espère.
Ben, je sais pas, parce que y a bien des gens qui vont voir les matchs encore,
oui.
Qui ont soutenu cette équipe-là jusqu'à la fin, mais qui sont quand même, je dirais, sceptiques. Ils y vont pour l'atmosphère, pour passer une belle soirée, mais par rapport à l'équipe, ils sont très critiques.
Oui, mais c'était censé être une année comme ça. Et l'année prochaine, ça va être un peu mieux, mais pas tant.
Vous m'avez pas dit ça l'année dernière?
Oui, sûrement.
Ah,
sûrement.
Bon, je vérifie.
D'après quand on regarde l'évolution de d'autres équipes qui ont été dans les bas-fonds de la Ligue nationale et qui sont maintenant des équipes qui vont peut-être gagner la Coupe Stanley, une reconstruction, ça prend 5, 6, 7 années des fois.
Ça fait depuis combien de temps? Là,
93, je pense, dernière Coupe Stanley.
Moi aussi, oui, ma mémoire, c'est ce
mais
qu'elle
là,
me dit.
Mais là, c'est quelqu'un qui se mêle de hockey qui ne
oui.
connaît pas.
Mais la reconstruction que le Canadien opère présentement, ça fait trois ans. Alors, non, on a vu... Oui.
Non, mais on ne parle pas un débat là-dessus, mais on n'a pas la même mémoire.
Alors... Non, il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont faites cette année. Et je vais juste reprendre Alexandre Pratt dans la section sport de la presse qui termine son article en disant « Alors, tout compte fait, est-ce une bonne saison? » Et il répond « Objectivement, non. Le Canadien a terminé dernier de sa division malgré la deuxième masse salariale de la Ligue nationale. Mais si on accepte d'exclure les victoires de la grille d'analyse, oui, le Canadien a des raisons de se réjouir. Et on se déplace du côté de Sherbrooke, du côté de l'Estrie, et on parle à Monique Kerouac. Bonjour Monique.
Bonjour Yvan, bonjour Francine,
bonjour
Mathieu.
Et c'est sûrement une très belle journée dans votre coin.
Ah oui, on a aussi, comme vous hier, battu des records de chaleur. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais, mais le ciel est magnifique. Mm-hmm. Le ruisseau coule à flot, alors tout va bien. Et j'ai une bonne nouvelle.
Allez-y.
En fait, en deux fins de semaine, imaginez, la liste d'attente en évaluation de la DPJ de l'Estrie a diminué de près de 30 %. Il s'agit d'un effort concerté de 120 professionnels psychosociaux de tous les départements du CIUS de l'Estrie-CHU qui a permis à la DPJ d'évaluer 174 enfants lors de ces deux moments. Il faut dire qu'en Estrie, selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 25 février, le délai moyen pour qu'un enfant obtienne une évaluation après un signalement retenu par la DPJ, c'était de 95 jours. La cible gouvernementale, rappelons-le, est de 33 jours. Au même moment, donc en février, 617 enfants étaient en attente d'une évaluation. Bon, on peut imaginer qu'étant donné l'importance de la file d'attente, il fallait trouver un moyen de faire différemment. Mais la DPJ a trouvé un moyen. Elle a procédé à un appel à tous auprès de différentes directions du CIUS de l'Estrichu. Au total, 136 personnes ont levé la main. De ce nombre, on en a gardé 120 avec les compétences recherchées. Et écoutez, ça a été formidable. On a donc traité, comme je vous le disais, près de 174 enfants. Le travail reste à faire pour arriver minimalement à la cible du gouvernement, mais d'autres événements de la sorte sont prévus à court terme et d'autres concepts sont en cours d'élaboration. Donc, il y a de l'innovation dans l'air et surtout des résultats intéressants.
Et des enfants qui ont les soins, l'encadrement qui leur est dû.
L'attention qu'il leur faut pour peut-être avoir une meilleure vie. Je vous parle à nouveau de Lac Mégantic, mais cette fois en lien avec l'art, en fait l'art cinématographique.
Oui.
Le documentaire de Philippe Falardeau sur la tragédie de Lac Mégantic pourra-t-il contribuer à la guérison de la communauté en retournant les projecteurs vers les véritables responsables de cette catastrophe annoncée? Mais c'est en tout cas le souhait que le réalisateur a formulé mardi soir en présentant à Lac Mégantic les deux premiers épisodes de sa série documentaire quelques jours avant de s'envoler pour Cannes. Et oui, car cette série a été sélectionnée en compétition officielle au Festival international de séries télé. Alors, Lac Mégantic, ceci n'est pas un accident, c'est le titre de la série documentaire, veut faire la démonstration que le déraillement funeste de ce convoi de pétrole qui a enlevé la vie de 47 personnes et incinéré la moitié du centre-ville le 6 juillet 2013 était prévisible et qu'il pourrait se reproduire encore. Pas besoin de dire que la salle faisait 400 places, se sont envolées comme des petits pains chauds. On souhaite bonne chance à M. Falardeau en France.
Mm-hmm.
Et finalement, un appel à l'aide. Les coffres sont vides au sanctuaire pour animaux de l'Estrie. Je prononcerai SAFE parce que c'est peut-être plus facile, S-A-F-E. Les moments sont si difficiles que la fondatrice du sanctuaire, Catherine Gagneux, lance un appel à la population afin d'amasser de l'argent en plus de trouver des bénévoles. Pour vous dire, le SAFE, c'est un refuge pour les animaux de ferme et de basse-cour. Ce sont des animaux qui sont normalement utilisés dans la chaîne d'exploitation des industries. Alors, cet organisme, les petits animaux ou les grands, vivent une vie paisible. Ils ont été retirés du cycle d'exploitation et ne seront pas mangés ni abattus. Ce sont des animaux qui proviennent de toutes sortes de situations, que ce soit l'abandon en chemin vers l'abattoir, une blessure ou de la maltraitance. Ils sont retirés de situations négatives et on leur donne la paix, et ce, sans en tirer profit. Et ce, depuis 2017. Mais à l'heure actuelle, la hausse des prix fait que c'est plus cher, donc nourrir ces grosses et petites bêtes. On a vu donc une baisse aussi de dons et il y a un problème encore plus grave, le manque de bénévoles, et ce depuis la fin de la pandémie. Alors, si jamais vous êtes dans la région ou que vous voulez aller sur le site Ferme Safe Mansonville, vous pouvez faire un don ou vous suggérer comme bénévole.
Oui, bravo.
C'était vos nouvelles de l'Estrie, directement du bureau de Monique à Eastman.
Oui, vous avez relevé le défi. Je vous avais demandé il y a deux semaines de nous arriver avec des bonnes nouvelles. Bravo.
Oui, c'était pas facile, mais bon, on a réussi. J'en avais d'autres, mais bon, je n'ai plus le temps, malheureusement.
Excellent. Alors, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monique.
Avec plaisir.
De mon côté, je vous amène dans la région de Gatineau, où le Lab École de Gatineau ne sera pas une réalité avant 2025. Face au retard qui s'accumule depuis l'annonce initiale il y a 5 ans, en raison de l'explosion des coûts de construction, le projet de Lab École de Gatineau, l'un des 6 de ce concept à travers le Québec, sera le tout dernier du lot à ouvrir ses portes. Et là, on parle d'une rentrée en 2025. C'est la date qui est désormais évoquée par la commission scolaire Western Québec. Ah bon? J'aurais pensé de Québec de l'Ouest, quelque chose dans le genre. Pour ce projet qui consiste à agrandir et moderniser l'école primaire Pierre-Éliott Trudeau dans le secteur Hall pour qu'elle réponde à des critères de l'école de demain basés sur une expertise multidisciplinaire et trois axes, l'environnement physique, l'alimentation et le mode de vie physiquement actif. On a en tête les gens qui représentaient ces axes-là. L'appel d'offres pour la construction qui avait été lancé plus tard qu'anticipé, puis avait dû être annulé au début de l'été parce que le montant proposé par le plus bas soumissionnaire surpassait de 55% l'enveloppe budgétaire allouée par le ministère de l'Éducation. À l'époque, c'était 17,5 millions de dollars. A été relancé, puis s'est conclu dans les dernières semaines, alors que la plus basse proposition se chiffrait à 27,3 millions. Voilà que les résultats d'ouverture du nouvel appel d'offres publié dans les derniers jours sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec font état de trois soumissionnaires qui varient quand même entre 24,8 et 26,1 millions de dollars pour le projet révisé. Et du côté de Québec, vous allez voir, c'est un peu le même thème, mais dans un sujet différent. Comme premier jalon du tramway, la Ville de Québec paiera 1,3 milliard de dollars à Alstom pour la construction et l'entretien des rames de tramway. Mais les prochaines étapes du projet devront être retardées. La mise en service ne se fera pas avant 2029. Le début du chantier étant reporté de 12 mois. L'évolution de ce volet du méga-projet a finalement été présentée publiquement après des mois de marchandage serré, selon la ville, avec Alstom, soumissionnaire unique pour décrocher le mandat du matériel roulant. Il aura en effet fallu 4 mois de négociations de gré à gré avec la multinationale française pour en arriver à une entente. Donc, on voit le lancement de projets, que ce soit en éducation ou en transport, on fait face à un seul soumissionnaire. Les budgets sont vraiment très touchés. On prend une petite pause. Au retour, Francine, la chronique Au-delà des limites. Et c'est vous qui allez rencontrer Virgile et Hilric Normandeau.
Vous pouvez rejoindre 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Yeux fermés, un autre orage s'abat sur tes espoirs. Il reviendra sans doute l'éclat du soir au milieu de ta route. Prends ma main, va toi et moi cueillir tes jours. Sous les étoiles qui dansent, à son heure, la mer immense t'emportera au fil de ses marées, et sur la plage tu sauras te poser. Sera pour toi un démon toujours plus grand et plus fort. Ralentis le pas, sans peur, sans hâte, admire dans les fleurs le décor. Prends ma main, va
Héra Ménard qui chantait « Cueillir tes jours ».
Et Francine, vous allez parler à quelqu'un qui fait un retour, parce qu'on lui a déjà parlé il y a quelques semaines, M. Ilric Normando.
Oui, bonjour M. Normando.
Bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir à nouveau.
Oui, alors tout à fait, vous étiez là le 10 mars dernier. Monsieur Normando est directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, qu'on va appeler l'ACPEV, hein, ça vous convient?
Parce oui, que oui,
sinon, on va perdre, ben au moins, sur le 12 minutes, on va sauver 3 minutes, comme vous dites, sûrement. La dernière fois, c'était la première fois qu'on vous recevait à cette émission. On avait parlé de votre parcours, qui est quand même extrêmement intéressant, votre parcours personnel dans le milieu du bénévolat ou encore des organismes sans but lucratif, entre autres à la Croix-Rouge, chez les scouts. On avait parlé aussi des gens pour qui vous travaillez, les parents, quel type de parents s'adressaient à vous, et aussi de ces enfants, parce que vous êtes très préoccupé, évidemment, étant préoccupé des parents, vous êtes aussi préoccupé des enfants qui ont des handicaps visuels. Et malheureusement, le temps nous avait manqué pour comprendre un peu mieux ce qu'était cette association que vous dirigez et aussi les interventions que vous faites, la philosophie que vous avez. Alors, j'aimerais ça peut-être dans un premier temps que vous nous fassiez l'historique brièvement de l'association, puisque depuis sa création en 1980, on peut dire que sa mission a changé radicalement. Est-ce que je me trompe?
Je sais pas si j'emploierais le mot radicalement, mais donc oui, on a été fondé en 1980. À l'époque, vous savez, dans les années 80, c'était la défense de droits qui était vraiment importante, parce que à cette époque-là, c'était très difficile d'obtenir des services pour les enfants qui avaient une déficience visuelle ou qui étaient aveugles. On n'était pas encore dans une philosophie où la Charte des droits et libertés de la personne avait pleinement pris sa place au Québec. On était encore dans une philosophie d'isolement, de mettre ces enfants-là beaucoup dans des endroits spécialisés à part du reste de la population. Et il y avait beaucoup de travail de défense de droits à faire pour qu'on respecte ces enfants-là qui avaient une déficience visuelle ou qui étaient aveugles. Et donc, quand ces parents-là se sont regroupés, ils étaient 14 à l'origine en 1980, leur objectif, c'était de se faire entendre. C'était de dire, nos enfants ont le droit d'avoir accès aux mêmes services, aux mêmes avantages, aux mêmes droits que n'importe quel autre enfant dans la société, et on leur place pleinement dans la société. Et ça, ben, ça a été un travail qui a été un travail d'au moins 25 ans à faire évoluer cette situation-là, ce qui nous a amené vers les années 2000. Et puis, dans les années 2000, il y a eu un processus de réflexion qui s'est fait à l'association pour recentrer un peu la dynamique en se disant, ben, peut-être qu'on devrait plutôt aider les parents plutôt que d'aller se battre sur tous les fronts, à essayer, vous savez, la défense de droit, c'est un gros travail souvent d'avocats, de gens avec des connaissances juridiques, etc. Mais dans les faits, faire de la défense de droit, ça aide pas les parents à mieux comprendre leur enfant, à mieux aider leur enfant, à mieux accompagner leur enfant, puis à mieux aider à l'intégration de leurs enfants dans la société. Et donc, on a pris ce virage-là en 2004-2005 de dire maintenant, on va mettre notre énergie sur les parents. Il faut qu'on éduque nos parents, il faut qu'on accompagne nos parents, il faut qu'on écoute nos parents, qu'on les soutienne. Donc, c'est tout ce virage-là qui a été pris il y a une vingtaine d'années. Et c'est encore ça notre philosophie aujourd'hui, c'est de travailler avec les parents, de les soutenir, de les écouter. Hein. Vous savez, des fois, les parents vivent des moments extrêmement difficiles au début quand ils apprennent évidemment le diagnostic de leur enfant, mais aussi tout au long de leur vie à accompagner leurs jeunes. Il y a des frustrations hein, quand l'enfant revient de l'école et que c'est difficile pour lui parce que l'intégration ou l'inclusion est difficile. Ben les parents notre cœur de parent saigne quand on voit que nos enfants ont de la misère. Puis ben ça, c'est le rôle de nos équipes, de notre équipe d'intervention, de donner des trucs aux parents puis de les accompagner dans ce travail-là, parce que c'est des fois, ça demande beaucoup d'énergie puis d'effort là. C'est un travail de se battre pour l'inclusion de nos enfants des fois.
Mais j'imagine que vous avez quand même continué à défendre les intérêts des gens pour qui vous travaillez.
Oui, mais on le fait d'une façon différente. On le fait plus dans l'action de faire connaître c'est quoi les droits des jeunes, des enfants à leurs parents. Que les parents soient outillés de savoir, ben mon enfant, il a le droit à un plan d'intervention à l'école. Mon enfant, il a le droit d'aller dans une école dite normale et d'être pleinement intégré dans le système scolaire. Mon enfant, il a pas besoin d'être traité différemment de d'autres enfants, mais il faut qu'on ajuste à ses besoins, en fonction de ses besoins. Et ça, c'est ce besoin d'éducation-là qu'on fait auprès des parents. On n'a malheureusement pas, sous notre mandat de l'année 2004-2005 qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, on n'a malheureusement pas les ressources financières pour avoir des avocats, des spécialistes en droit, puis prendre des causes juridiques et faire de la défense dans l'aspect légaliste des choses. Ça, on n'a pas ces équipes-là à l'ACPEV, mais nos partenaires de d'autres organisations, le RAC, la COFAN, donc il y a d'autres organisations qui ont développé cette expertise-là et l'OPHQ, et c'est à eux qu'on se réfère et vers eux qu'on guide les parents quand il y a des causes spécifiques en matière de droit qui ont besoin d'être traitées. On est comme n'importe qui d'autre, on fait appel à des experts et on reconnaît que les experts dans ces dossiers-là, c'est pas nous.
Bon, c'est bien quand même, c'est que en fait, vous travaillez beaucoup en partenariat avec des gens qui peuvent vous soutenir dans certaines actions où vous avez moins, peut-être pas d'expertise, mais en tout cas, comme vous dites, vous avez moins de ressources.
Exactement.
En parlant excusez, allez-y.
Oui, bien, en fait, j'allais faire la transition en mentionnant aussi que, vous savez, la déficience visuelle, c'est pas comme d'autres types de déficiences, comme par exemple la déficience auditive, parce que nos enfants sont peu nombreux dans la société. Vous savez, juste l'aspect déficience visuelle, là, avoir une basse vision, ben ça touche un enfant sur 1000. Fait quand on prend une école primaire qui a 500, 600, 700 élèves, ben mathématiquement parlant, les chances qu'un enfant se retrouve seul avec une déficience visuelle dans un milieu scolaire complet, dans une école primaire complète, les chances sont élevées que ça se produise. Alors, l'enfant comme tel, il n'y a pas d'autres modèles, il n'y a pas d'autres enfants comme lui à l'intérieur du système scolaire avec qui se comparer. Fait que notre association a aussi un rôle super intéressant pour les jeunes parce que des jeunes comme ça qui ont une maladie qui se produit à 1 sur 10 000 ou 1 sur 100 000, ben, à travers notre association, quand on fait des activités, ils ont la chance de connaître d'autres jeunes qui vivent les mêmes choses qu'eux. Et ça, c'est règle générale, c'est pas dans leur milieu scolaire puis leur vie de tous les jours qu'ils sont en mesure de le faire. Donc souvent ça a un effet rassurant, puis ça a un effet d'appartenance aussi qui est important pour les jeunes de dire j'en connais d'autres qui sont comme moi, je suis pas tout seul. Et ça, ben c'est une autre mission à travers nos activités où on aide ces jeunes-là à découvrir qu'ils sont pas seuls dans la société à vivre les difficultés qu'ils vivent, qu'il y a d'autres jeunes qui les vivent également.
Alors, d'où l'importance que vous accordez à l'intégration dans la communauté et au développement de l'autonomie et de la vie sociale, qui est une espèce de philosophie là, qui se cache derrière toutes les interventions que vous faites. Écoutez, le temps file, c'est incroyable. À chaque fois qu'on vous parle, on se dit, est-ce qu'on va finir par... C'est tellement intéressant tout ce que vous avez à nous raconter.
Écoutez, c'est dommage, parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur l'autonomie, fait que vous n'aurez pas le choix de me réinviter.
Ben, c'est ça, mais de toute façon, on vous a fait une proposition et puis vous allez probablement revenir, si je comprends bien, là, sur nos ondes de façon régulière. Écoutez, je ne veux pas vous tordre le bras là, en disant ça, mais comme on en a déjà parlé, je connais votre intérêt. Mais en finissant là, rapidement, là, les services et activités que vous faites pour les adolescents.
Oui, ben écoute, c'est notre clientèle adolescente, quand ils viennent avec nous, on a développé un modèle où on leur fait faire tout plein d'activités, mais ce qu'on se rend compte, puis c'est un changement qu'on est en train d'apporter dans l'évolution, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup de besoins spécifiques en lien avec le premier emploi, en lien avec des questionnements sur la sexualité, en lien avec le premier appartement, en lien avec les études supérieures, le cégep, l'université. Je rentrerai pas dans dans les détails maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet qu'on pourrait peut-être traiter dans l'avenir, des besoins spécifiques de nos adolescents qui se dirigent progressivement vers l'âge adulte et qui vivent des choses différentes par le fait de leur déficience visuelle ou le fait qu'ils sont aveugles.
Oui, mais j'imagine que quand même, ils ont le même, je dirais, le même objectif que beaucoup d'adolescents, c'est une espèce de détachement de leurs parents.
Oui, et quand on parle des parents dans un contexte comme ça, la difficulté est souvent en lien avec ce qu'on appelle le phénomène de surprotection. C'est que les parents, dans la plus belle et la plus merveilleuse des intentions, c'est certain que tout bon parent veut protéger son enfant. Et quand on a un enfant qui a une déficience et que les parents, eux, n'ont pas cette déficience-là, il y a une espèce de mécanique involontaire, là, c'est subconscient, mais il y a une mécanique involontaire de surprotection qui se présentent, qui se pointent des fois le bout du nez, et les parents ont une tendance à on va dire, couver leurs adolescents plus que d'autres adolescents qui n'ont pas cette déficience visuelle-là. Et ça devient problématique. Les jeunes adultes aveugles nous en parlent. D'ailleurs, c'est le sujet d'un de nos prochains congrès au mois de mai. C'est une des conférences qu'on va avoir en partenariat avec l'INCA où on va expliquer cet élément-là à nos parents, d'être bien prudents, de pas vouloir trop protéger leurs enfants dans ces premières étapes-là pour qu'ils puissent développer leur autonomie. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est si on veut que notre enfant soit capable de cuisiner quand il va être dans son premier appartement, ben c'est certain que si vous faites tous ses repas jusqu'à temps qu'il quitte le nid familial, eh bien, vous n'y aurez pas appris à cet enfant-là à se préparer pour son premier appartement. Mais ça, c'est le genre de choses qu'il faut que les parents soient conscients de dire, ben vous serez pas là pour lui montrer elle est où la pinte de lait, puis comment faire la différence entre le pot de sucre puis le pot de farine et d'autres éléments comme ça pour que quand votre jeune il se mette à cuisiner, ben il faut qu'il apprenne les trucs, il faut qu'il apprenne quand il est aveugle comment remplir une tasse avec de l'eau chaude sans se brûler, et puis que ce soit pas vous comme parent qui le fassiez en surprotégeant votre enfant.
Monsieur Normando, je suis désolé, je suis obligé de je suis obligé de vous couper la parole, le temps file, mais comme on sait qu'on va se reparler, alors on aura vraiment l'occasion d'élaborer sur tout ça. Alors Ilric Normando, qui est directeur général de l'ACPEV, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Au revoir.
Alors en ligne, nous avons Marcel Dugas. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Qui était prête à venir faire une chronique la semaine dernière parce que j'avais été confuse et que je lui avais donné rendez-vous, mais finalement on a fêté Pâques chacun de notre côté.
Alors, je suis comme un scout, je suis toujours prêt.
Ben, on a vu ça. Et ce matin, vous nous parlez de bikini. Alors quand on a vu votre sujet, évidemment, on a pensé à la chaleur, mais ce n'est pas ça. On parle de l'atoll de Bikini de l'océan Pacifique qui a une histoire, je dirais, tumultueuse et troublante.
Mais oui, il fait très chaud par ailleurs.
Oui,
c'est un bon
oui.
endroit pour porter un maillot. Mais effectivement, je vous parle de Bikini. Au moins, comme on est à la radio, personne ne va m'accuser d'avoir choisi ce sujet-là pour pouvoir montrer des images. Mais c'est surtout, vous l'avez dit, de l'atoll de Bikini qui a inspiré le nom du maillot dont je veux vous parler. Je pense qu'on a tendance à penser que bikini, c'est un mot qui a été inventé par une agence de publicité, qu'on a sondé des consommateurs potentiels parmi une liste de noms de produits, à quoi les gens répondaient le mieux. Et c'est ce qui nous a donné d'ailleurs le monokini, n'est-ce pas, qui est un bikini, une pièce, comme si bikini, c'était pour la racine pour deux. Ça n'a rien à voir avec ça. Bikini, c'est un atoll qui fait partie des îles Marshall, un archipel qui se trouve dans l'océan Pacifique, plus ou moins à mi-chemin entre les Philippines et Hawaï. Et il doit sa renommée à l'attitude colonialiste des États-Unis, à la guerre froide et au désir d'un designer français de faire parler de son nouveau produit. On peut commencer en disant ce que c'est qu'un atoll. Ben, dit simplement, ce sont des récifs coralliens et des îlots qui forment une sorte de barrière autour d'un lagon. On en retrouve dans les régions tropicales des océans. Et l'atoll de Bikini est formé de 23 îles entourant un lagon de près de 600 km².
C'est très beau, hein? Moi, je suis allée voir des photos hier. C'est vraiment très beau à voir.
Il y a définitivement un petit quelque chose de paradisiaque, surtout si on garde une saine distance. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. On a trouvé dans l'atoll des traces d'occupation qui datent d'il y a entre 3500 et 4000 ans. Donc, des générations et des générations de résidents et résidentes ont vécu de la culture de fruits et de légumes, d'élevage, de pêche, et les îles étaient d'excellents navigateurs. Les Européens ont appris l'existence de l'atoll en 1529. Des navigateurs espagnols sont passés à proximité. Mais la région était isolée et ne comptait pas vraiment de grandes richesses. Il n'y a donc pas eu d'intervention coloniale massive. L'endroit s'est appelé Atoll Descholtz à une certaine période, mais c'est le nom Bikini qui s'est finalement imposé. Ce serait une déformation du mot marchalais Pigini qui signifie à peu près surface plane où on retrouve des cocotiers. La région a aussi été visitée dès le milieu du 19e siècle par des missionnaires protestants américains qui vont ridiculiser les religions traditionnelles des habitants et convaincre les femmes de se vêtir d'une manière considérée par les étrangers comme étant plus appropriée. Bikini va appartenir à l'Espagne jusqu'à la fin du 19e siècle, alors que le pays va tout simplement vendre l'atoll et une série d'autres îles du Pacifique à l'Allemagne, qui travaillait à se constituer un empire colonial pouvant rivaliser avec ceux de la France et de la Grande-Bretagne. Après l'Allemagne, on appartient au Japon, puis aux États-Unis, et c'est là que les choses vont se gâter pour la population locale. La Deuxième Guerre mondiale nous fait entrer dans l'ère nucléaire, les Américains lâchent deux bombes atomiques sur le Japon, et à mesure que la guerre froide s'intensifie, on va vouloir effectuer de plus en plus d'essais nucléaires, faire sauter des bombes à des fins expérimentales, c'est une technologie nouvelle, on teste des engins de plus en plus puissants, et chaque test, évidemment, est une démonstration de force, rappeler à nos ennemis le potentiel de destruction auquel ils s'exposent. Les États-Unis font des essais dans le désert de l'ouest de leur pays, mais on voulait voir ce que les bombes pouvaient faire non seulement sur Terre, mais sous l'eau, dans les airs. Il était donc pratique d'avoir des colonies lointaines pour effectuer certaines expériences. Les îles Marshall vont être un des principaux laboratoires de l'armée américaine, tout spécialement l'atoll de Bikini. Au printemps 1946, on convainc les habitants, ils étaient 167 en tout, donc c'est une toute petite population, de quitter leur terre pour qu'on puisse procéder aux essais. Mais l'entente était à l'effet que les bikiniers et les bikiniennes pourraient éventuellement rentrer chez eux. Les habitants acceptent. Quand la demande vient de l'armée de la plus grande puissance du monde, a-t-on vraiment le choix? Ils se disent, si c'est la volonté divine, on va partir. Mais il semble bien que Dieu avait décidé que jamais ils ne réintégreraient leur atoll de manière permanente. La première détonation a lieu le 1er juillet 1946. Able, une bombe de 23 kilotonnes, est testée. On en fait sauter une autre quelques jours plus tard. Et après une pause de 8 ans, on fait de nouveaux essais dans l'atoll en 1954. Mais entre-temps, la technologie s'était beaucoup développée. On ne parle plus de petites bombes nucléaires jouées comme au temps de la guerre. Lorsqu'on fait sauter Castle Bravo en 1954, une bombe thermonucléaire aux deux terrures de lithium, l'explosion est presque 1000 fois plus forte que les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. La détonation de la bombe va creuser un cratère de près de 2 km de diamètre et 70 mètres de profondeur. D'ailleurs, dans les images que vous avez vues, Francine, je ne sais pas si vous avez vu la prise du haut des airs dans l'espace, on voit des demi-cercles qui ont été creusés dans les récifs coralliens. Ce sont les résultats des détonations atomiques. Il y a également trois petites îles de l'atoll qui n'existent tout simplement plus. Elles ont été vaporisées par les explosions. L'essai nucléaire Castle Bravo n'a pas affecté les résidents de Bikini. Ils avaient été évacués. Mais les radiations ont été transportées par les vents vers d'autres atolls, dont certains étaient habités. Il y a des centaines de personnes qui ont subi des empoisonnements radioactifs. Les résidents de l'atoll d'Outirik ont dû être relocalisés parce que les lieux avaient été rendus inhabitables par le passage du nuage de radiation. Après ça, inutile de vous dire qu'on a immédiatement cessé les essais nucléaires dans l'atoll de Bikini. Et quand je dis immédiatement, je veux dire tout de suite après une vingtaine d'autres essais répartis sur 5 ans. On a aussi utilisé le lagon de Bikini comme cimetière pour navires de guerre, parce que pourquoi pas? Donc, 1958, tout est terminé. Qu'advient-il de nos résidents déplacés en 1946? Ils se sont d'abord installés sur un atoll situé à proximité nommé Rongerik. Rongerik était inhabité, c'est parfait, on ne dérangera personne, mais ce n'était pas une coïncidence si l'atoll était désert. On n'y retrouvait pas les ressources en nourriture et en eau pour permettre à des humains d'y vivre en permanence.
Et personne n'avait prévu ça avant que les citoyens arrivent là.
Il semblerait qu'on ne s'était pas vraiment posé la question. L'armée américaine a dit on va vous offrir des rations, tout ça, ça va bien aller. Mais dès que les rations ont été épuisées, on s'est retrouvé en situation de pénurie. Les gens étaient littéralement en train de crever de faim. Ça a pris à peu près un an avant qu'on se rende compte que ce n'était pas une solution viable. On a décidé de les déplacer dans un atoll qui s'appelait Ujilang. Il y a des hommes de Bikini qui sont rendus sur place pour construire les installations nécessaires. Mais entre-temps, l'armée a décidé d'évacuer un autre atoll pour faire plus d'essais nucléaires et on a donné à ces gens-là ce que les Bikiniers avaient bâti à Ujilang pour leur éventuel déménagement. On a donc dû trouver une autre solution pour les gens de Bikini. Ils ont été déplacés sur une île nommée Kili. En 1968, donc plus de 2 décennies après le déplacement, on a promis aux Bikiniens et aux Bikiniennes qu'ils pourraient rentrer chez eux. Le plan a été annulé après qu'on a eu découvert que la chair des crabes de cocotier, qui est une des principales sources de nourriture de l'atoll, était encore fortement contaminée et impropre à la consommation. Il y a des familles qui ont tenté un retour en 1972, mais très vite, on s'est rendu compte que les puits étaient contaminés, les sources de nourriture aussi. On a réévacué l'atoll qui demeure inoccupé depuis. Le gouvernement américain a versé des compensations dans les centaines de millions de dollars aux résidents et à leurs descendants, mais un fait demeure, un milieu de vie où des êtres humains ont évolué pendant des milliers d'années est aujourd'hui pratiquement désert. Et je termine là-dessus, Francine, vous vous demandez probablement quel est le lien entre tout ce que je viens de vous raconter et le maillot 2 pièces. Je vous parlais d'Able, le premier test atomique de Bikini en juillet 1946, il y a quelques minutes. Moins d'une semaine après la détonation, il y a un designer français nommé Louis Réard qui lançait sur le marché un maillot de bain féminin constitué d'un soutien-gorge et d'une culotte. Et comme il espérait que sa création aurait l'effet d'une bombe, anatomique, comme on l'a dit plus tard, il lui a donné le nom de cet atoll du Pacifique dont tout le monde parlait à ce moment-là. S'il l'avait lancé à un autre moment, peut-être qu'aujourd'hui, on dirait, on s'en va à la plage, oublie pas ton Nenewetak, peut-être, ou ton Johnston, ou ton Muroroa, je sais pas. Si, ça sonnerait aussi bien, par contre.
En tout cas, c'est un peu troublant de voir qu'on a saisi une occasion comme celle-là, mais bon. C'était votre chronique. On vous en remercie. Ça nous éclaire toujours, comme à l'habitude. Et à la semaine prochaine, Marcel.
À la semaine prochaine.
Alors, pour faire suite un petit peu à ma chronique d'hier à l'émission Au quotidien, je vais parler d'un outil qui s'appelle SAFE, qui veut dire « Soutien aux aînés pour la forme et l'équilibre ». Parce qu'on est de plus en plus d'aînés, et d'ailleurs il y a eu un article à ce sujet-là dans la presse du 1er avril qui s'intitulait « Aînés à domicile, un outil web pour prévenir les chutes ». Donc, au Québec, il y aurait 1 million de personnes de 65 ans et plus qui vivent à domicile, et le tiers d'entre elles, donc 330 000, feront une chute au cours de l'année. C'est quand même pas rien.
C'est très important.
Et il y a 25 % des visites de personnes aînées dans les urgences de la province qui le sont à cause d'une chute. Parce qu'une fois qu'un aîné ou une aînée tombe, il y a la probabilité plus élevée qu'il tombe à nouveau et souvent dans le courant de la même année. Alors, il y a eu des gériatres du CUSUM qui ont travaillé sur un outil web Et ce qui est intéressant, puis c'est là que ça fait le lien avec ma chronique d'hier, c'est qu'on peut travailler sur les quatre formes de conditionnement physique, c'est-à-dire la force, parce qu'on perd beaucoup
de force musculaire,
l'équilibre pour s'éviter de tomber, la flexibilité et l'endurance. Alors, vous allez là-dessus, vous commencez par le niveau 1, puis tranquillement, vous améliorez toute votre condition physique. Voilà. On prend une petite pause. Au retour, on va parler de web encore à cause des attaques et on va parler aussi avec l'Association des sports.
Canalem et 5e édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et c'est le moment de l'émission où Francine Forget devient chroniqueuse au niveau de la technologie. Cette semaine, on a eu plusieurs nouvelles technologiques à propos d'attaques.
Oui, il y en a plusieurs, mais je vais commencer par autre chose et vous y ferez le rapport que vous voulez, parce qu'on vient d'apprendre que le Québec va pouvoir continuer.
Oui, c'est vrai.
En fait, la Cour suprême, je vais dire ça comme ça, vient de reconnaître aux provinces le droit d'interdire aux citoyens la culture de plants de cannabis à la maison. Ça a l'air de rien, là, mais c'est quand même une autre compétence provinciale qui est... En tout cas, soutenu cette décision.
Officialisée,
oui, parce qu'on aurait pu arriver peut-être à quelque chose d'autre. Alors, je l'ai simplement mentionné parce que ça vient d'apparaître là sur les écrans des principaux médias.
Parfait. Et là, on revient à nos cyberattaques.
On revient
là, cette fois-là,
à la technologie. Je ne commencerai pas par les cyberattaques. Oui, je vais commencer par les cyberattaques. Non, mais je voulais juste... C'est parce que je vous sentais un petit peu déstabilisée puis j'étais en train de m'amuser à vos dépens.
Ouais,
alors, non, je vais être
bientôt,
très gentille.
Bientôt, on va parler de ChatGPT. Je sens ça.
Non, il n'y en aura pas ce matin. Donc, une entreprise d'ici qui croit qu'elle aurait pu protéger la société d'État, rien de moins. Je vous en parle parce que je trouve ça intéressant, cette nouvelle qui est rapportée dans la section actualité du Journal de Montréal, sous la plume de Louis-Philippe Messier. C'est qu'il y en a beaucoup des petites pousses comme ça qui font toutes sortes de petites affaires qui sont incroyables, mais qu'on ne connaît pas et probablement qu'on ne sait même pas dans les grandes sociétés que ça existe, ces petites pousses-là au Québec, parce qu'on est pas mal fort, je trouve, moi, au niveau technologique, dans des petites entreprises, des petits organismes. On l'est moins quand on se transporte dans les grands ensembles.
Ah, mais Apple, ça a commencé dans un garage.
Ben c'est ça, exactement. Mais ici, on dirait que quand on arrive avec des gros projets, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous retient, manque de confiance ou je ne sais trop. Alors, des Montréalais qui repoussent quasi quotidiennement des attaques de pirates informatiques pro-Poutine contre des sites ukrainiens ne sont guère impressionnés par Hydro-Québec. Et le directeur général de cet organisme qui s'appelle E-Quality, Michel Lambert, dit que ça devrait être de la petite bière de déjouer une attaque comme celle qui a fait planter le site d'Hydro-Québec. Alors, avec un collègue, il a fondé une compagnie qui a ses bureaux sur le plateau Mont-Royal et qui offre comme service un service qui s'appelle Deflect, qui fait dévier les attaques informatiques dirigées contre ses clients vers l'entreprise.
Donc, un effet miroir.
C'est un effet miroir, tout à fait. Alors, je trouvais ça intéressant parce que, bon, est-ce qu'ils auraient pu, comme ils prétendent, là, qu'ils auraient pu éviter cette situation problématique? Hydro-Québec, je ne sais pas, là, je ne viens pas de regarder, mais ça avait repris. Il y a eu, d'après ce qu'on comprend, des petits moments où on est revenu, je ne sais pas si c'est dans le noir, dans le blanc, mais en tout cas où on n'était pas optimal sur le plan du fonctionnement. Et je pense que du côté du transactionnel, donc ce qui nous aide à payer nos comptes, malheureusement, on ne peut pas nécessairement s'y fier. Mais c'est sous toute réserve ce que je vous dis là, parce que la situation évolue. Avant de vous parler d'un autre sujet, j'ai un petit entre-deux. Monsieur Musk. Alors, Monsieur Musk, on sait qu'il est devenu...
Vous appelez ça un petit entre-deux?
Bien, c'est un petit entre-deux parce que c'est juste pour nous faire sourire. Hein, Monsieur Musk qui a dépensé 44 milliards de dollars pour devenir le grand patron de Twitter. Bien, il a annoncé, et ça, c'est dans la section argent du Journal de Montréal, qu'il avait fait de son chien le nouveau PDG de Twitter.
Arrête donc.
Alors de son chien, et son chien a même signé de la patte un document officiel.
C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, mais moi, je vous le dis parce que c'est pas n'importe quoi, Twitter. Malgré toutes les menaces qu'on a pu faire de certains qui ont dit « je me retire », qui se sont retirés pour aller du côté de Mastodon et tout ça, à peu près tout le monde est revenu parce que c'est là que ça se passe, la nouvelle, et l'instantanéité de la nouvelle, c'est sur Twitter que ça se passe. Alors, on est revenu là, et vous imaginez que ce monsieur qui nomme son chien, parce que maintenant, je ne sais pas si c'est le chien qui va prendre des décisions, mais c'est lui qui est à la tête d'un réseau d'information mondial.
Oui,
qui peut réseau d'information mondiale, trois petits points.
Qui peut avoir des conséquences importantes. En même temps qu'on se parle, là, je suis en train de regarder, puis Hydro-Québec, ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien, bon, mais tant mieux. Alors, on va espérer que ça continue. Alors, pour continuer dans le bloc techno et toujours dans les actualités technologiques, cette fois, je me tourne vers Le Devoir pour vous parler de Temu. Temu, T-E-M-U, c'est, on titre comme ça, le nouveau rival chinois d'Amazon. Et on s'inquiète parce que, évidemment, même quand on fait une commande, même quand on achète quelque chose par le biais du web, de l'Internet, évidemment, il y a des données personnelles qui sont retenues.
Font partie de la transaction.
Et ça fait partie de la transaction. Et qui sont stockées quelque part, même quand on nous dit que c'est peut-être pas le cas. Moi, je suis très méfiante par rapport à tout ça.
Oui, je vais être méfiante en général.
En général, bon, ben, je vais le prendre, mais pour les technologies, je pense que la méfiance égale la prudence. Alors, je me sens bien à l'aise avec ça. C'est Alain McKenna qui nous en parle dans Le Devoir. C'est débarqué en douce, Temu, au Canada cet hiver. C'est un site d'achat en ligne et à rabais. Et l'entreprise, dont le siège social est aux États-Unis, appartient à une société chinoise qui est soupçonnée d'utiliser des logiciels malveillants pour pister des clients chinois. Alors, ce qu'il dit, c'est un prix cher à payer pour des internautes intéressés à payer pas cher. Bon.
Là, je comprends. C'est une entreprise chinoise qui est établie aux États-Unis pour pouvoir recueillir des informations de...
Pour pister ses clients chinois. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on dit dans la chronique d'Alain McKenna. Écoutez, mais c'est sûr que Temu, là, si vous allez sur Temu, vous pouvez commander des choses. C'est un site de vente en ligne, comme Amazon. C'est en fait, c'est qu'il se positionne, ce site-là, entre un site d'achat groupé et un site de liquidation. Ça a quoi comme conséquence? C'est que ça élimine... Encore une fois, je dis encore une fois parce que là, on a de plus en plus d'exemples. Je ne veux pas faire faux amalgame, là, mais on a beaucoup parlé de la vente de la biographie, de l'autobiographie autorisée de Ginette Renault. Et on a supprimé des intermédiaires. Alors, on est encore dans ce scénario-là, au-delà des données personnelles qui pourraient être compromises. On est encore dans ce scénario, c'est qu'on peut éliminer un intermédiaire et offrir l'ensemble des services pour vendre un produit sans passer par un distributeur. Ça fait que, oui, il y a, des retombées sur l'utilisation des données personnelles, mais ça va plus loin. C'est qu'il y a des emplois qui peuvent être abolis, et il y a aussi un cadre juridique qui a été développé au fil du temps pour protéger le consommateur. Et quand il arrive un joueur comme Temu qui court-circuite le modèle commercial existant, ben ça soulève des questions fondamentales. Et entre autres, dans son article, M. McKenna, il cite un spécialiste du marketing web, M. Renaud Legout. Et il dit « À chaque nouvelle technologie de rupture, on voit que la protection du consommateur n'est pas au sommet des priorités, évidemment. » Parce que là, on reçoit notre boîte probablement de Chine, probablement souvent un peu amoché. Si le produit n'est pas en bon état, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on le retourne en Chine? Puis si on le retourne en Chine, c'est quoi les délais? Parce qu'il y a aussi les délais de livraison. Alors évidemment, on le montre, en tout cas on le présente comme un nouveau rival chinois d'Amazon, Mais je vais vous dire que Amazon, on pourra dire ce qu'on voudra. Il y a quand même un service qui est assez impressionnant quand on même avec tous les problèmes de livraison qu'ils ont eu récemment. Mais il reste que c'est là et on voit que toute chose se développe. Et encore une fois, soyons méfiants parce que méfiance et patience riment quand on parle de technologie.
C'est compris. À la chronique « Quoi surveiller en fin de semaine? » C'était avec quelqu'un, une porte-parole de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Et on est habitué de parler avec Jocelyne Richard, normalement, à ce moment-ci, mais est allée se promener plus loin que dans la cour chez elle. Alors, elle nous a proposé de parler avec Lise Veilleux. Bonjour, Mme Veilleux.
Mais bonjour, M. Delaurier.
Madame Veilleux, on a déjà parlé avec elle, c'était en novembre, je pense, dernier, pour vous nous avez raconté votre expérience au premier duathlon que l'association encourageait, c'est ça?
Mm-hmm. Absolument.
Et là, il y a une deuxième version de ce duathlon-là qui va avoir lieu en septembre prochain, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Le 10 septembre prochain, on récidive avec une duathlon 2. Oui.
Duathlon 2. Et quand on s'était parlé la dernière fois, vous m'aviez dit que vous aimeriez peut-être courir un 10 km. Est-ce que ça a été fait?
Je suis encore avec ce projet-là.
Ouais.
Puis moi, j'ai continué à m'entraîner au gym tout l'hiver. Mais là, on a commencé à courir à l'extérieur, Audrey et moi, ma guide, la semaine dernière et puis en fin de semaine passée. Puis là, je retourne ce soir pour courir à l'extérieur, parce que c'est pas pareil pour moi, courir à l'extérieur versus courir sur le tapis roulant. C'est vraiment pas la même affaire.
Je peux vous dire que c'est la même chose. Moi, je fais beaucoup de vélo stationnaire, puis j'ai fait du vélo à l'extérieur en fin de semaine, puis effectivement, c'est pas pareil du tout.
Ah, même pour le vélo? Ah, ouais?
Ouais.
Ben moi, on me dit, quand tu cours sur le tapis, tu sais, t'as une propulsion, hein, le tapis donne une propulsion, puis c'est coussiné. À l'extérieur, t'as pas ça. Fait que c'est pour ça que c'est plus dur dehors.
Est-ce que j'entends en arrière, dans le fond de ce que vous me dites, que ça s'en vient, le 10 km?
Bien, ça s'en vient certain, c'est le 21 mai.
Oh!
Oui, oui.
Donc, pour vous, je pense que vous, vous avez déjà levé la main pour la deuxième étape, la deuxième version du duathlon qui va avoir lieu en septembre.
Absolument. Ah oui, j'ai levé la main. Audrey aussi. Donc, on récidive. On y va. On le refait.
Donc, votre entraînement, de facto, est commencé. Là, puis, ça va, puis, il va y avoir un 10 km qui va marquer un peu cet entraînement-là.
Absolument. Oui.
Puis après ça, vous vous mettez sur le vélo.
Après ça, on va se mettre sur le vélo. Ou entre les deux, on va se mettre sur le vélo. Parce que là, en mai, j'imagine qu'on va pouvoir aussi commencer le vélo. Oui. Mais on se calme. Là, on va y aller avec le jogging. Puis le vélo va s'insérer graduellement là, dans l'entraînement. Ouais.
Rappelez-nous, le duathlon, ça consiste en quoi?
C'est 5 km de course, tout près d'un 20 km de vélo, puis un autre 2,5 de course.
Et ça va avoir lieu quand?
C'est le 10 septembre au circuit Gilles Villeneuve, là, au même endroit que l'an passé, à une semaine d'intervalle. Là. L'an passé, on était le 17 septembre. Cette année, ça va être le 10 septembre. Alors.
Je pense qu'il y a déjà des membres de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain qui ont entrepris leur entraînement. Est-ce que je me trompe?
Oui, j'ai eu oui dire qu'il y a déjà 8 personnes qui se sont inscrites pour refaire le duathlon dans le même groupe que l'an passé. Puis j'ai eu aussi oui dire qu'il y en aurait qui voudraient se rajouter, mais on est à la recherche de guides de voyants, parce que ça, c'est l'enjeu pour nous, les personnes non-voyantes, d'avoir un ou un guide pour courir avec nous, autant pour faire du vélo que pour justement la course à pied. Mm-hmm. Alors ça, c'est l'enjeu, là, parce que c'est vraiment un cadeau du ciel quand on nous trouve un guide, là. C'est comme essentiel. Là.
Mais pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, vous, votre guide, vous l'avez trouvé l'année dernière, vous l'avez trouvé assez tard dans la saison.
Oui, je l'ai trouvé au mois de juillet, puis le duathlon est en septembre, donc on a eu juste 2 mois pour travailler ensemble, pour s'entraîner ensemble, mais ça a été tellement, comme, passez-moi l'expression, un bon match que ça a très bien fonctionné. Mais c'est vraiment souhaitable de trouver un guide le plus tôt possible, là, comme avril-mai, pour se rendre en septembre, ce serait génial. Oui, pour les gens qui en ont besoin d'un guide.
Oui. Donc, les gens qui seraient tentés, d'abord, vous nous l'avez dit, c'est une aventure fantastique. Vous m'avez donné de la chair de poule quand vous m'avez raconté votre arrivée.
Oui, j'ai l'impression que je vais encore le revivre. Hein. Ça ne sera pas copie conforme, ça va être encore
ça va être d'autres choses.
une autre expérience, semblable mais différente à la fois.
Donc, il n'y a pas de limite aux inscriptions, je pense.
Je pense pas. Ben, l'an passé, on était 12 coureurs, ben, 12 personnes non-voyantes avec leur guide. Fait que peut-être qu'on essaie au moins d'avoir le même nombre, là, sinon plus. Là. Je ne crois pas qu'il y ait de nombre limite.
Donc, est-ce que vous avez un petit message à faire à ceux qui seraient sur la clôture, qui ne sauraient pas trop?
Oh, moi, je leur dis de venir vivre l'expérience, ne serait-ce que pour relever un défi personnel. C'est avec soi qu'on court, c'est pour soi qu'on court, c'est pour soi qu'on roule. C'est pour ce sentiment d'accomplissement, puis de, je pense que c'est du bien-être, autant psychologique, physique. Puis moi, j'encourage tous ceux qui veulent le faire. C'est sûr qu'on veut toujours s'améliorer, là. Moi, j'espère courir parce que plus vite que l'an passé, à dépasser mon temps et tout. Mais je veux pas non plus, là, exagérer parce que je veux que ça reste du plaisir. Fait que si on part avec l'idée qu'on fait ça pour le plaisir, puis se lancer le défi à soi-même et à personne d'autre, ben, ça devient vraiment, là, quelque chose de très intéressant à expérimenter.
Fantastique. Alors, on parlait avec Mme Lise Veilleux, qui est membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, qui nous parlait du prochain duathlon qui va avoir lieu en septembre prochain. Je vous souhaite, Mme Veilleux, beaucoup de plaisir dans votre entraînement et dans les événements auxquels vous allez participer cet été.
Bien, merci beaucoup de votre invitation. Puis, tous ceux qui sont intéressés, là, venez vous joindre à nous.
Oui, donc, puis je garde vos coordonnées pour que vous nous parliez de vos réalisations.
Absolument, avec plaisir.
Merci, bonjour.
Merci, au revoir.
justement, on parlait de course avec le duathlon. C'était un enregistrement d'une entrevue que j'ai fait cette semaine avec Mme Veilleux. Donc, quand elle parlait qu'elle allait s'entraîner le soir même, c'était mercredi soir, ben j'espère pour elle qu'elle allait s'entraîner aussi hier soir. Il faisait tellement beau. Francine, qu'allez-vous... non, je vais rephraser ça.
Qu'allez-vous-tu que tu vas faire en fin de semaine?
C'est ça!
Alors, Yvan, je vais commencer par vous parler de la grande braderie qui est la grande braderie de mode québécoise qui a quitté Gatineau, n'est-ce pas? Qui était.
Je savais même pas qu'elle était à Gatineau.
Oui, bien oui, elle était à Gatineau du 6 au 8 avril. Elle est présentement à Montréal jusqu'au 16 avril. Et ensuite, elle se destine vers Québec où elle y sera du 20 au 23 avril. Alors, cette grande braderie qui se tient dans le Vieux-Montréal, au métro Champ-de-Mars, là, dans l'édifice... voyons, j'oublie toujours son nom, de le marché Bon Secours, excusez-moi. Alors, qui tient au marché Bon Secours.
Petite cabane, là.
Oui, la petite cabane qui est quand même assez volumineuse comme cabane.
Oui, c'est très impressionnant. Oui.
Le mot cabane, c'est, vous ça pensez à pas, cabane hein. Au Canada ou quoi?
Ah, quand oui,
vous,
peut-être.
OK, bon, OK, vous vous laissez influencer, là.
Peut-être des que Maisonneuve y a pensé de cette façon-là.
Ben, ça se peut, ça se peut. Alors, donc, la braderie de mode québécoise, en fait, elle est là pour promouvoir puis diffuser des collections de designers québécois. Puis, a créé, finalement, un lieu de rendez-vous avec les consommateurs, oui, pour que vendent, n'est-ce pas? Hein? On veut bien vendre, mais aussi pour qu'ils puissent apprécier à leur juste valeur ce produit local là, dans le domaine du design, de la conception, l'échantillonnage, l'assemblage, la mise en marché. Alors, bref, la mode locale dans son ensemble. Donc, comme je vous ai dit, c'est à Montréal, au marché Bon Secours. C'est le métro Champ-de-Mars. Si vous venez en voiture, bien, il y a toujours possibilité de stationner dans les stationnements du Vieux-Port. Et c'est sur la rue Saint-Paul, mais c'est préférable de marcher parce qu'il va faire tellement beau ce week-end. Mm-hmm. Ça se poursuit jusqu'au 16 avril. C'est à partir de 17 heures. Donc, c'était à partir de 17 heures. Excusez, il y a eu de la confusion. Et d'ailleurs, je vous donne des heures d'ouverture. Prenez-les en note ou encore allez sur le site parce que hier il y avait une erreur. Sur la page Google, on annonçait que c'était ouvert dans la journée et ça ne l'était pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour Montréal, les 14, 15, 16 avril, ça devrait être ouvert à partir de 11 heures. Et ça va, les heures de fermeture vont varier là, selon les jours.
Puis là, on s'attend à voir quoi? C'est des kiosques?
C'est des kiosques, effectivement.
Avec du
lait, des vêtements. Il y a des vêtements, il y a aussi des articles en cuir vegan, des choses comme celle-là. Là, c'est vraiment design et mode. Oui, très intéressant. Et on peut aussi faire des bonnes affaires, puis ça permet de voir, pour ceux qui sont intéressés, où on en est rendu dans la mode québécoise. Je vous parle aussi de miroir-miroir. Je sais qu'il va faire beau en fin de semaine, toute la fin de semaine, mais des fois, peut-être qu'on va aller se rafraîchir. Alors, à la place Bonaventure, il y a un événement qui a été créé par Moment Factory. Je parle d'un événement parce que c'est pas de l'art, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Je ne l'ai pas encore essayé. La critique est assez bonne. Bon, mais quand je dis assez bonne, des fois, c'est un peu comme avec le Cirque du Soleil. On a l'impression, pour ceux qui les ont tous vus, que c'est des choses qui se répètent ou quoi. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, en tout cas, comme pour moi, ça m'émerveille toujours. C'est à partir donc du 7 avril, donc ça a eu le temps d'être rodé. Ça dure entre 30 et 40 minutes. C'est à la place Bonaventure, au 800 rue de la Gauchetière. C'est au niveau 1, alors du côté ouest, à côté du kiosque d'information. Je vous donne cette précision parce que c'est grand à la place Bonaventure. Oui. Les vendredis, c'est de 17h à 21h. Les samedis, de 11h à 21h. Et les dimanches, de 13h à 18h. Et ça va durer jusqu'au 18 juin. C'est vraiment une...
Juin?
Oui, juin. D'accord. Alors, c'est vraiment une expérience immersive. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est en français et en anglais. Donc, l'expérience se passe en deux langues, vous la choisissez. Et évidemment, il y a un coût, il y a un prix d'entrée de 12 $ à 15 $. Enfin, je vous parle de juste pour vous mettre l'eau à la bouche, mais aussi pour vous inviter à faire le choix de vos billets pour être sûr de pouvoir vous y rendre à l'heure que vous voulez. La grande foire d'art contemporain arrive en ville, plurale, qui était autrefois foire papier.
Oui.
Donc, le week-end prochain, à partir en fait de vendredi prochain, c'est ce pourquoi je vais vous en parler jeudi, je vais m'y rendre et je vais vous en parler plus en détail. C'est, cette foire-là a pris une ampleur vraiment, cette année c'est sur 2 étages. Il y a plusieurs provinces qui sont représentées, en fait il y a 8 villes canadiennes où on dit qu'elles y sont représentées, 49 exposants sur 2 étages. Il y a vraiment des ateliers éducatifs et c'est aussi une foire, donc on peut acheter. Les galéristes sont là pour vous vendre, mais aussi pour vous expliquer, vous initier à l'art contemporain. J'y reviens la semaine prochaine.
Oh wow, bien merci beaucoup. De mon côté, d'abord, je veux attirer votre attention sur quelque chose qui va se passer ce midi, dans 1 heure environ. Vous savez qu'en France, le gouvernement a voté pour un changement dans la loi de la retraite. On veut faire passer la retraite de 62 à 64 ans. Ça a été accepté au niveau gouvernemental, mais il faut que ça soit entériné. Et le Conseil constitutionnel, qui est une espèce de conseil des sages, il y a 9 sages, dont d'anciens présidents de la République, rend ce vendredi, en fin de journée, c'est à 18h, heure de France, donc de 12 à midi ici, ces décisions sur la réforme des retraites déterminantes pour l'avenir du texte controversé emblématique du début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Les 9 sages de la rue Montpensier doivent se prononcer sur la constitutionnalité, je l'avais presque eu, de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, adoptée sans vote à l'Assemblée nationale le 20 mars, dont la mesure phare, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, est massivement contestée dans la rue depuis janvier. Il y a aussi, moi cet après-midi, en fin d'après-midi, je vais aller à l'espace Saint-Denis pour voir la magie des impressionnistes, donc m'imprégner de... J'ai déjà assisté à d'autres événements de ce genre-là. Moi, ça m'attire beaucoup parce que je suis pas très... J'ai de la difficulté un petit peu avec l'art, mais ça, c'est une façon où je me sens plus à l'aise. Et rapidement, c'est le Salon du livre de Québec. Ceux qui veulent aller... il va faire beau. Ceux qui veulent aller faire un tour d'auto là-bas, ça va être fantastique. C'est aussi la fin... Là, on a parlé de la fin de la saison de hockey. Ben moi, avec mon fils, ça veut dire qu'en fin de semaine, on va faire notre pool pour les séries éliminatoires. Alors, c'est les choses qui m'intéressent en fin de semaine.
Mais là, mettez pas le Canadien là-dedans. Là.
Non.
Non, OK, c'est clair. Merci, Yvan. Merci à Mathieu qui nous accompagne toujours le vendredi. Merci à vous, surtout, chers auditeurs, d'être avec nous. Merci aussi à tous nos collaborateurs aujourd'hui. Et bien, Yvan, comme à l'habitude, je vous laisse le dernier mot.
Oui, ben c'est... On vient de finir notre première année en ondes. La semaine prochaine, on commence notre 2e année. Ça va être à 9h30 et ça va être à Canal M. On vous envoie un rendez-vous.
Est-ce qu'on a quelque chose de spécial?
Vous pouvez rejoindre l'équipe.